c'est un moment de dédicace d'auteurs et d'autrices, d'écrivains et d'écrivaines de la région, et qui sont là vraiment de manière très sympathique, qui sont venus pour attendre leur public, passer un moment avec eux, échanger sur leurs différentes productions, que ce soit des productions récentes ou plus anciennes. Et d'ailleurs, on rencontrera aussi parmi ceux-là la famille d'Acosta, qui a un inventaire et un étal énorme de leurs productions, disons de livres tournés vers la photographie avec souvent des textes de Anne. On va retrouver aussi un peintre qui était là dimanche dernier. Oui, parce que dimanche dernier, on avait sur l'esplanade 16 artistes peintres qui, eux, faisaient un fonds d'atelier, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des tableaux à des prix très intéressants. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas venus pourraient le regretter. Et puis aujourd'hui, donc, on a 7 écrivains, je reviens, écrivaines, qui vont signer, dédicacer des autographes très personnalisés. Et tout cela, c'est dans l'intention de faire vivre cette association. Ce sont tous des amis de l'association qui se prennent la main pour créer des événements, et des événements un peu atypiques, parce que un fonds d'atelier collectif et des signatures collectives, ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre ça. Vous aurez des propositions d'histoire régionale, vous allez trouver des propositions un peu de fantastique, vous allez trouver notre histoire avec Lara qui est là, qui a un stand. Vous allez trouver aussi des histoires sur le musée de Rochechinard, puisque nous avons un petit étal avec quelques bouquins. Voilà, c'est très, je dirais, cosmopolite royanais. Et juste une chose, même quand vous entendrez, et ça ne sera pas effectivement en direct, mais dites-vous qu'il se passe toujours quelque chose à Rochechinard, et la prochaine invitation, c'est le 21, où il y aura à partir de 19h un concert dans l'église. Et puis le 23, c'est la 6e brocante, avec des objets de la fin du 19e jusqu'aux années 30. Voilà, donc effectivement, il se passe toujours quelque chose à Rochechinard, et aujourd'hui, c'est dédicace.
Au stand de Anne et Fabien d'Acosta. Impressionné par tous ces ouvrages. Ça récapitule un petit peu la production.
Voilà, 30 ans de carrière. 30 ans d'activité.
Je te jure que ça m'a impressionné tout à l'heure.
Photographique et d'écriture conjointe avec des succès et des insuccès. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Ça n'a pas marché. Ça, c'est la vie des livres. La vie des éditeurs aussi. Qui est un milieu, comme on le sait dans l'actualité, qui n'est pas facile et où il y a beaucoup de bouleversements. On a eu pas mal d'éditeurs qui ont fait faillite, qui se sont dédits de leurs engagements de publier des livres. En plus de ceux que tu vois là, on en a fait beaucoup d'autres pour lesquels on avait des contrats d'édition, mais qui ne sont pas sortis à cause de... ils ont changé. Parce que c'est un milieu, l'édition, où ça bouge très vite. C'est racheté par des grands groupes, tu vois. Et il suffit que ça passe à un autre groupe et que le directeur général trouve qu'un projet n'est pas intéressant ou ne rapportera pas assez, il élimine le projet.
Parmi cette production très riche, il y a quand même eu des éditeurs qui ont fait un fil un petit peu dans le temps, ou ça a été chaque ouvrage à un éditeur?
Alors, nous, nos plus gros succès, ça a été ces 365, où on en a fait 3 ou 4, qui sont tombés pile au moment où c'était la mode, tu vois, de gros bouquins comme ça, avec 365. On en a eu même édité en calendrier, enfin. Donc ça, celui-là, Méditation biblique, ça a été réédité en italien, en allemand, enfin deux ou trois fois en français. ça a été notre, notre top. Donc, et puis d'autres, celui-là qui est sur les jardins des Alpes, alors lui, il est passé chez Glénat, donc ça a changé d'éditeur, et du coup, bon, ils ne l'ont pas poussé, et c'est dommage, parce que c'était un livre bon, qu'on aimait bien, qui n'a pas eu de succès, tu vois, bon... C'est bizarre.
Ça dépend du moment. Où
ah, ça dépend du moment. Hein. Ah, mais tout à fait. Et il y a des questions de mode. Bon, et ça, bon, les auteurs, les photographes, ils sont pour rien.
Alors, beaucoup de voyages hein, et puis beaucoup de paysages par tes photos, Fabien,
oui.
En tant que photographe depuis toujours, et Anne au texte, un duo
voilà.
Entre photos et écrit voilà. Qui s'entrelace au mieux pour
ouais.
Donner une forme et vie à tous ces ouvrages. On peut en citer quelques-uns. Alors, on connaît bien aussi tout ce qui est en relation avec la Drôme. Hein, ça a été souvent
oui.
Un parcours
oui.
Également outre Hexagone qui ont aussi donné vie à des livres.
Tout à fait. Bon, et puis le Royan et le Vercors qui était bon, mon terrain un peu de... d'aventure pendant pas mal d'années qu'on a beaucoup sillonné et arpenté avec des très beaux paysages, surtout moi j'étais fasciné par les hauts plateaux du Vercors. Je trouve que c'est un des plus beaux paysages des Alpes qui est un peu méconnu, où il n'y a pas trop de monde, faut pas trop en parler, mais enfin qui vaut le coup, même pas loin d'ici. Il y a à Fondure des paysages fantastiques hein, qui sont accessibles facilement. Donc voilà, on a la chance d'habiter un pays propice à la randonnée et à la photographie.
Alors certains livres, ça a été un petit peu votre initiative de les réaliser, et d'autres, ça a pu être des commandes.
Oui, alors... par exemple, le livre sur l'Inde, ça a été bon, une de nos initiatives parce que j'ai eu l'occasion de travailler en Inde pendant une dizaine d'années pour une mission scientifique où j'étais photographe et ça nous a permis de sillonner un peu toute l'Inde. En fait, il était prévu de faire un 365 sur l'Inde. Et puis l'éditeur s'est rétracté, mais on a trouvé sans peine un autre éditeur, un bon éditeur, Très Daniel, qui a accepté le projet. Un peu différent, donc on a dû le remanier, Anne a dû réécrire beaucoup de choses, mais ça a fait un très beau livre, voilà.
Avec même des images filmées, parce qu'on précise qu'il y a aussi l'aspect film. Hein,
tout qui, à fait, voilà. Là, dans ce livre-là, il y a un DVD voilà, que j'avais filmé, la Kumbh Mela, en 2013. Le plus grand pèlerinage au monde qui a eu lieu, je crois, aussi cette année. C'est tous les 12 ans.
Vers l'autre rive, un voyage au cœur de la spiritualité en Inde, pour ce livre qui fait partie peut-être des dernières réalisations.
Oui, c'est une des dernières. C'est vrai que on a un peu arrêté de voyager et maintenant je suis plus sur mes archives.
Oui, parce que là maintenant il faut y a
oui.
De quoi faire aussi.
Voilà, il y a vraiment de quoi faire.
Le Mont Athos aussi, une expérience spirituelle qui a été. Aussi sous ton objectif,
oui.
Fabien.
Voilà, c'était aussi un endroit un peu réservé, où il n'y a pas beaucoup de photographes qui ont eu l'autorisation de travailler. Donc moi j'ai eu la chance avec des amis de pouvoir être accueillis et voyager avec un moine du monastère pour découvrir... ce berceau de la spiritualité orthodoxe.
Et des productions aussi, on parlait de films hein, qui
oui.
Traitent de beaucoup de choses, et notamment aussi Roche Chinard.
Eh oui. C'était au retour d'un de mes voyages en Inde, j'avais filmé un village indien Eticopaca, un village d'artisans qui font de la tournerie laquée, très belle. Mais je me suis dit, ah, mais tu viens de filmer un village indien, une nuit, hein, mais venue la révélation, il faudrait que tu filmes ton propre village, il n'y a pas de raison. Donc on a monté un projet. C'est une époque où on a trouvé des financements, il y avait
des fonds pour de ce type de réalisation.
Voilà, voilà. Avec un ami, Henri-Jacques Bourgeat, je ne sais pas si tu l'as connu, oui. Qui nous a quittés malheureusement, qui était à la caméra. On a été visiter un peu tous les personnages emblématiques de la région. Les agriculteurs qui faisaient de la noix, les paysans qui avaient du bétail pour le lait, et toutes les activités au cours d'une année. Un peu aussi, c'était en mémoire du spectacle Son et Lumière qui y avait au château de Rochechinard, sous lequel on est. Donc je me suis dit aussi, il faudrait faire revivre un petit peu cette ambiance. Et ça a été vraiment extraordinaire. On a été les nombreux, c'est-à-dire 130 habitants de Rochechinard, mais qui s'y sont prêtés de bon gré.
Et c'était le moment de le faire.
Et c'était le moment de le faire, il y a une douzaine d'années, ouais, même plus, hein, 15 ans, 15-16 ans. Et ça reste un document de ce qu'était la vie dans un petit village dans les années 2010, au début du 21e siècle.
Rochechinard, un portrait, ouais. Un film que l'on peut retrouver. Alors il y a un site, oui, qui concentre un peu plusieurs réalisations.
Oui, il y en a un qui est filmdocumentaire.com. Bon, ouais. On peut retrouver certains films, mais il y avait eu une publication avec d'autres films faits sur le Vercors. Je sais pas si tu l'as connu, ça. Ouais. Bon, des films d'atelier aussi.
C'est un beau panorama de, oui, toute une carrière des professionnels en tant que photographe, avec Anne aussi pour le côté littéraire, hein. Tant au niveau de la Drôme, on parlait du Royan, du Vercors, de la Savoie, la Haute-Savoie, les costumes, la Maurienne, les costumes traditionnels, les jardins alpins, voilà, beaucoup de choses. C'est très éclectique.
Oui.
Et très riche. Merci Fabien.
Merci beaucoup.
La soupe est pas mal.
Oui.
Dessiné sous le parasol,
oui,
c'est quelque chose.
C'est exactement ça.
Parce que là, on se situe à un stand de texte, mais également de dessin. C'est tout ce qui fait la personnalité de Laurent Bret, dessinateur et écrivain. Et
connu sur Lolo Bret.
Voilà, connu sous le nom de Lolo Bret. Est-ce qu'on pourrait vous considérer comme un peu un baroudeur du dessin, de l'écriture?
Oh, un petit peu, on peut dire ça, oui, depuis une quarantaine d'années, oui, je pense que j'ai bien baroudé, il n'y a pas de problème.
Là, je fais référence aussi au dernier ouvrage qui est sorti, à savoir de faire un petit tour de la Drôme sur une 125.
C'est ça, tout à fait. J'ai fait 860 km avec un vieux TW Yamaha et j'ai fait donc le tour de la Drôme, mais par les petites routes, tout simplement. Donc en fait, je voulais montrer une autre facette de notre département, pas uniquement les grandes villes et les grands monuments connus comme le palais du facteur cheval. En fait, je me suis intéressé à tout ce qu'on ne connaît pas, par exemple les petites chapelles du Vercors ou les fontaines de Montbrun-les-Bains, des tas de choses comme ça que les gens méconnaissent et qui méritent quand même le coup d'être vus, parce qu'on a vraiment un patrimoine particulier dans la Drôme, avec des vieilles légendes aussi qui sont propres à certains villages, que j'explique dans mon ouvrage d'ailleurs, par exemple la vache d'or de la Chaux, ou la fontaine du bourreau justement de Montbrun-les-Bains, et des tas de choses comme ça.
Et la cylindrée 125, ça a aussi quelque chose de plus, on va dire, peut-être plus intime que des grosses motos pour découvrir ça?
Tout à fait, parce qu'en fait, mon papa avec ma maman, ils avaient fait un road trip en 1956, c'est-à-dire qu'ils étaient partis d'Auriol, exactement de la même manière. Ils étaient allés jusqu'au Mont Ventoux, ils étaient passés du Mont Ventoux, ils étaient descendus jusqu'à Carpentras, ils étaient remontés. Ils avaient fait, en fait, en somme, ce qu'on appelle un road trip maintenant, c'était ça. Ils étaient partis, c'était leur voyage de noces, ils l'avaient fait de cette manière-là.
Et en combien de temps ce road trip avec la 125 donc pour le tour de la Drôme
c'est... Alors, une semaine complète, en sachant que je m'arrêtais souvent pour dessiner, pour questionner, pour faire des tas de choses, bien entendu, pour camper le soir, parce que j'étais parti avec tout l'attirail de camping et tout ce qui s'ensuit.
Et chaque étape, alors, a été croquée par tes soins.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, chaque étape ou alors des petits arrêts fugaces ont pu être immortalisés sous forme de...
Oui, chaque fois, je m'arrêtais, je faisais une halte, alors je dessinais un édifice. Alors, il y a des petites choses que j'avais préparées préalablement, comme par exemple, tout ce qui était très proche de chez moi, comme les chapelles du Vercors, je les avais croquées préalablement. Comme ça, j'ai gagné un petit peu de temps, on va dire, pour faire le parcours de la Drôme. Mais lorsque j'étais vraiment au sud du département, tout ça, j'ai découvert les lieux, j'avais enquêté un petit peu avant et ça s'est fait de but en blanc tous les jours comme ça, oui.
Et ça peut-être inspirer même des motards de faire ce genre de...
Alors assez singulièrement, ça inspire beaucoup de gens. J'ai des motards qui m'ont acheté l'ouvrage, il y en a qui prennent le tracé que j'ai à côté en photo pour le faire le même. Il y a même des cyclistes qui veulent le faire aussi. Donc voilà, et très récemment, j'ai madame Marie-Pierre Mouton, la sénatrice de la Drôme, qui l'a eu en cadeau par le biais d'un de ses amis. Donc j'étais assez fier, puis elle aussi, donc vous voyez comme quoi...
Alors le Lobré, c'est aussi une production assez considérable en dehors de ce Tour de la Drôme en 125. Il y a beaucoup d'ouvrages, puis certains personnages aussi.
Oui, alors il y a un peu de tout. C'est vrai que je travaille avec beaucoup de scénaristes, notamment tous les livres jeunesse. Ils sont faits avec des scénaristes. Il y a Anne-Marie Quintard, Nicolas Girard et autres. Et les autres ouvrages, on va dire pour adultes, on se rapproche du carnet de voyage, sauf mon, on va dire, entre guillemets, celui qu'on appelle mon best-seller qui s'appelle C'est News qui nous font sourire, que j'ai complètement produit. Donc là, il s'agit de 70 articles de presse qui sont authentiques mais complètement déjantés. Il y a 3 ans de travail dessus, ça donne ça. Donc c'est un livre qui donne le moral, surtout avec l'actualité qu'on a en ce moment entre le détroit d'Hormuz, d'Ukraine & Co. Et ben là, c'est des articles qui sont vrais, qui sont complètement cocasses, mais qui sont vrais.
Une maison d'édition qui a l'air d'être fidèle.
Oui, je suis rentré par le biais d'une de mes amies, Anne-Marie Quintard, justement, qui faisait du livre jeunesse. Et c'est l'édition de la maison d'édition Nombre 7 qui est basée à Nîmes, qui aime justement travailler avec ce type de produit, et notamment les formats à l'italienne. C'est un format A4 inversé, un petit peu comme les anciens albums de Sylvain et Sylvette, pour ceux qui ont connu ça. Voilà, c'est le type de format habituel qu'on va trouver pour certains ouvrages de jeunesse, notamment dans l'école des loisirs, on retrouve souvent ce format-là.
Alors le public concerné, ça peut être quelle tranche d'âge ?
Ah ben c'est comme moi, c'est comme le journal Tintin, c'est 7-77 ans, voire plus. Hein, donc voilà. Donc on va commencer à partir de 5-6 ans jusqu'à des gens plus âgés que moi, moi qui le suis déjà.
Voilà, le zèbre qui voulait faire la course, là on l'a sous les yeux. D'ailleurs, tu es en train de faire. Peut-être un petit zèbre pour une dédicace,
voilà, exactement,
vraisemblablement.
Pour un petit garçon, apparemment, donc voilà, c'est sympa.
Titou à la Coupe du Monde.
Petite mangousse qui va participer. Alors celui-là, on l'a fait avec Nicolas Girard, c'est notre dernier ouvrage qui est sorti juste avant la Coupe du Monde de foot. Et on a une Coupe du Monde qui va se faire en intercontinent, c'est-à-dire que des animaux. Donc là, j'ai travaillé sur 32 personnages de BD d'animaux différents. Et on a le continent africain, le continent européen, le continent asiatique et le continent américain qui vont s'affronter dans une Coupe du Monde de la FIFA, de la Fédération internationale de foot animalier. Donc c'est Nicolas Générard au scénario qui a fait ça et c'est un chouette ouvrage, on s'est fait plaisir à le faire.
Et donc toi, le Lobré, tu résides sur le Royan, ça t'inspire ?
Je suis oriolais de souche et voilà, et toujours oriolais, donc fier de mon village. Voilà, c'est...
C'est une manière de profiter du Royan, de travailler aussi les ouvrages.
Voilà, puis c'est bien de venir ici dans cette petite manifestation, rencontrer des têtes qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Donc c'est toujours sympathique de croiser beaucoup de personnes comme ça, d'échanger.
Alors pour retrouver l'ensemble de tes livres, de ces bandes dessinées, on peut dire, de livres illustrés ?
Donc les réseaux classiques, la FNAC, Amazon, Cultura, donc on va les trouver dans ces 3 organes de diffusion très connus. On peut les commander par le biais de Nombre 7, mais ils vont contrebalancer sur ces 3 options-là. Donc la FNAC, ça marche très bien.
On poursuit ce tour des stands avec leurs auteurs. Et là, présentement, je suis... avec Madame Chat.
Bonjour.
Peut-être plus connue.
Dire miaou.
Oui. Plus connue sous le nom de Thérèse Signat, qui, outre le côté artistique, avec bien sûr un certain penchant pour l'organisation d'art singulier sur le Royan et sur le Grésivaudan, c'est aussi l'écriture de différents ouvrages qui sont présentés à ce stand. On peut en parler, Thérèse,
oui.
Et puis aussi le goût pour l'écriture.
Tout à fait. Bah, l'écriture, hein, j'ai commencé, j'avais 10 ans, donc j'étais toute jeunette, et à commencer à écrire des petites histoires. Et en fait, c'est les professeurs, les instituteurs et les professeurs qui m'ont emmenée pour le goût de l'écriture, parce que j'avais beaucoup d'imagination. Et au lycée, je me souviens, c'était le professeur d'histoire français qui animait un journal interne. Il m'a dit, bah, si tu veux écrire les textes. Et puis une petite copine de classe avait illustré mes écrits. Donc ça a continué. Puis j'ai commencé à travailler au journal Le Progrès à 18 ans, où j'ai sorti mon premier recueil de poésie publié par le journal Le Progrès. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc c'est les autres qui m'ont un peu poussée à écrire, mais ce n'est pas déplaisant. Et depuis, bah, ça a continué entre la poésie, le poème Délivrance et le recueil Le Cri, puis à Saint-Germain-des-Prés, Cherche Midi. Et bah, on a eu un grand temps d'arrêt pendant longtemps, plus de 20 ans sans écriture, où j'ai commencé en 2023 à publier Près des étoiles avec ma fille. On a fait ça en écrire à quatre mains. Et puis ça a continué avec L'Absolu, recueil de poésie, l'Académie de lettres. Et le petit dernier, Ne jamais faire confiance aux vivants, signé Madame Chat. Pour la petite anecdote que je raconte, c'est pas moi qui m'ai donné ce surnom, mais c'est les gens, parce que je me promène avec mon chat. Et en fait, les gens m'ont appelé Madame Chat parce qu'ils me prenaient des photos, ils ne savaient pas mon nom, et j'ai signé celui-là. Et Ne jamais faire confiance aux vivants, ben, le chat est dans toutes mes histoires, donc c'est ma mascotte.
On peut parler un petit peu des univers, hein, qui sont côtoyés dans ces
Alors,
différents
ben,
livres.
Pour l'Académie de lettres, c'est plutôt la poésie. Près des étoiles, c'est un roman un petit peu fantasy, plutôt science-fiction, mystique, un petit peu, qui a des petits codes un petit peu qui rappellent la Genèse, le livre de la Genèse, la philosophie pour l'arbre, voilà, un petit clin d'œil à Saint-Exupéry. Et puis le dernier, Ne jamais faire confiance aux vivants, bah, c'est un petit peu voilà, de l'humour, détourné à un sujet un petit peu noir, qui est la mort, de manière plutôt humoristique, d'une écriture un petit peu décalée. Ça démarre par Wolf, la narratrice qui est un petit peu agacée et qui interroge son pendule pour savoir ce qu'elle va faire de sa vie. Il lui demande d'écrire un livre. Et à la fin, épitaphe, c'est moi qui raconte ma mort, en fait, voilà, à ma manière.
Une maison d'édition qui encadre l'ensemble des livres, ou ça a été
Ah bah là, maintenant, c'est moi. C'est plutôt en auto-édition, donc chez Bode, qui est mon diffuseur. Mais voilà, c'est moi l'éditeur de mes propres livres, c'est plus simple. Et la manière de les retrouver, bah, en librairie, dans toutes les librairies, on peut le commander. Oui. Ou alors sur le site bode.fr, on le retrouve. Mais le plus simple, c'est le commander chez le libraire, parce que je trouve que c'est plus sympa d'aller chercher son livre chez le bon diffuseur.
Donc toujours avancer avec l'écrit, et puis actuellement une rédaction en cours.
Alors il y a un livre en préparation, un recueil de nouvelles qui s'appelle Affabulation, et qui suit un petit peu dans le même esprit que Ne jamais faire confiance aux vivants. Voilà. Il est en cours.
Merci Thérèse.
Merci.
Au stand de Bernard Roudet. Nous sommes toujours sous un soleil bien ardent à l'occasion des rencontres du livre dédicace auteur sur les hauteurs de Rochechinard dans la Maison Musée avec peintre, sculpteur et écrivain. Alors on connaissait peut-être, enfin ce qui me concerne, je connaissais moins cette facette. Peintre, sculpteur, oui, puisque vous avez participé à la Biennale des Arts Singuliers avec de très beaux totems il y a quelques années à Saint-Jean-en-Royans.
Exact.
Une production très éclectique, beaucoup d'imagination entre ces moments de poser aussi des œuvres sur des livres, hein, avec différents ouvrages, des romans, de l'écrit, puis beaucoup de choses, des nouvelles, ce qui peut vous inspirer aussi au quotidien. Vous donnez une certaine harmonie entre vos productions de sculpture, d'art plastique, et puis aussi d'écrit. Comment ça se passe?
Les écrits, non, c'est bien quelque chose à part. Par contre, je passe assez facilement de la peinture à la sculpture. Et ça me permet, quand je suis coincé d'un côté, de pouvoir rebondir de l'autre et de retrouver de l'inspiration.
Qu'est-ce qui fait le fil rouge de tous ces écrits?
C'est l'autre. Que ce soit en écrit, qu'en peinture, qu'en sculpture, c'est toujours l'autre qui revient. Le rapport de l'autre à la foule. J'ai un côté un petit peu d'agoraphobie et effectivement, j'ai toujours ce rapport de l'autre à la foule, c'est ce qui marque mon travail avant tout. Voilà. Une foule de totems, par exemple, voilà, et puis une tête peinte à côté, il y a tout un rapport qui s'établit.
Et ça, donc, on le vérifie dans chaque ouvrage qui a été publié. Il y en a un certain nombre qui sont disposés sur votre stand.
Oui, j'en ai encore quelques-uns à éditer. Ouais. Ça doit être une douzaine, oui.
Et qu'est-ce qui donne naissance aux intrigues dans cette dimension du public, de la foule, de l'autre ?
Ce sont toujours des romans noirs, oui, hein, qui caractérisent un petit peu les choses. Il y a des surprises tout le long de ces livres. On voyage beaucoup aussi, mmh, en Afrique ou ailleurs. Et c'est ce qui caractérise un petit peu mon travail, que l'on retrouve aussi en peinture.
Alors ça, c'est donc un travail qui s'effectue, donc les livres, au fur et à mesure, ça se...
Moi, je travaille par série toujours, en particulier en peinture et en sculpture. J'ai tendance à prendre un thème, à aller au bout de ce thème-là, ne pas le lâcher pendant un mois, deux mois, six mois s'il le faut, et être dans mon univers. Et puis à un moment, plus rien à dire, on arrête, on passe à autre chose.
C'est comme ça, on tourne des pages de la vie.
Exactement.
Pour les romans, les nouvelles, on peut donner quelques intrigues des livres qui sont présentés.
Quelques intrigues. L'Annonciation, ça se passe dans les traboules lyonnaises. Et c'est l'histoire d'un policier qui tourne mal. Celui-ci, des deux côtés maintenant, ça se passe en Afrique. En Afrique de l'Ouest, ça se passe aussi en Éthiopie. Et c'est un jeune photographe qui arpente un petit peu toutes ces terres nouvelles pour lui et auquel il va arriver un tas de choses. Celui-ci, une page blanche et un trou noir, ce sont les personnages du livre qui vont virer carrément l'auteur. Donc il va se passer un tas de choses, parce que l'auteur ne va pas se laisser faire quand même, non plus. Donc voilà, il y a un tas de choses qui se passent. Puis j'ai un bouquin de science-fiction, parce que je voulais essayer, j'aime bien me mettre en danger un petit peu. Et donc j'ai sorti mon petit bouquin de science-fiction aussi. Voilà, des nouvelles aussi sur le milieu de l'art. La rencontre improbable entre un footballeur et une artiste peintre. Et là, ça fait des étincelles. Voilà, quels sont les thèmes de mes livres.
Bon, les hauts plateaux.
Sans oublier les hauts plateaux. Pour les gens qui connaissent le Vercors et ses hauts plateaux, ils se retrouveront complètement dans cette chasse à l'homme.
Une maison d'édition qui rassemble tout ça, ou c'est j'ai votre propre mal, maison d'édition?
J'ai fait pas mal d'auto-édition. Et ces derniers temps, oui, j'ai la maison d'édition Gaïa qui m'édite mes derniers livres.
Et puis côté aussi, voilà, le... peinture, sculpture, avec bien des livres qui rassemblent un petit peu toutes les productions, maintenant, qui ont pu être disséminées de par le monde. Donc ça donne...
ma vie, mon œuvre, comment dire, en plaisantant.
Mais ça donne aussi un panorama.
Tout un parcours, c'est ce qui est important. Moi, tous les 5 ans, 10 ans, je sors en un petit catalogue qui regroupe un petit peu tous mes derniers travaux. Et effectivement, ça permet de voir ensuite tout le parcours.
Alors c'est aussi les totems qui sont un peu votre marque
totems,
de fabrique.
C'est ma marque de fabrique. Alors les totems, je ne suis pas du tout allé chercher cette idée en Afrique ou autre. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de totem en Afrique. Mais pour moi, c'est toujours le rapport de l'autre à la foule. Donc cette foule qui est représentée par les totems, où s'affronte le personnage seul, unique, un peu perdu, paumé des fois. Et c'est ce rapport de la foule à l'individu.
Et vous aimez bien promener votre foule d'exposition en exposition?
J'aime bien la mettre en situation. Ouais. C'est important, effectivement. On peut, elle s'est retrouvée dans des châteaux. Là, elle part dans le Jura à la fin du mois. Ça navigue sans arrêt, oui. D'un lieu à un autre. Et plus le lieu est insolite, mieux c'est. Mmh.
Et le côté peinture aussi, ça, alors il y a un pendant, donc
oui,
sculpture
oui,
et
oui,
peinture.
Ça se rapproche, je passe de l'un à l'autre un petit peu, des fois quand je suis coincé au niveau inspiration en peinture, je vais me mettre dans la sculpture et inversement. Et puis pareil, il y a des thèmes en peinture qui reviennent un peu, toujours l'autre. J'ai fait des séries sur les photobâtons aussi, quand on se fait tirer le portrait, donc ça fait 4 petites photos comme ça qu'on retrouve dans mes peintures, qui peuvent être assez marrantes. Voilà. Il y a eu des séries sur les écoulements aussi. J'avais fait des enfermements avant et j'ai besoin de respirer et autres. Donc il y a une série sur les écoulements qui s'est faite il y a quelques années.
De peinture abstraite aussi, de, un peu figurative.
Alors je suis parti de l'art brut. De l'art brut, je suis allé de plus en plus sur la figuration avec des tableaux assez, assez finis. Et j'ai franchi le pas ces dernières années avec l'abstraction, qui contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas simple du tout, parce qu'on n'a pas de thème de base, il faut... c'est vraiment la page blanche, la toile blanche, et c'est très intéressant, je trouve, de se mettre un petit peu en danger avec ce travail où on est censé ne pas avoir de repères.
Voilà, il y a tout à construire.
Tout est à construire.
Merci beaucoup Bernard.
Merci à vous.
Et puis bonne suite en peinture, sculpture et littérature.
Eh bien c'est très gentil. Merci à vous.
Quand on évoque l'histoire sur le Royan, on ne peut pas manquer un ouvrage qui fait référence, hein, écrit par Freddy Bastin. Bonjour Freddy d'ailleurs.
Oui, bonjour Patrice.
Un ouvrage, deux ouvrages même, puisqu'il y a une certaine continuité entre les deux. Oui. Avec le premier, hein, Le secret du dauphin, qui nous amène dans une intrigue au moment des guerres de protestants catholiques au Val-Sainte-Marie, c'est bien ça?
Le livre commence un peu avant 1562, puisqu'on remonte à l'époque où le dauphin Humbert Ier est venu se réfugier au couvent du Val-Sainte-Marie à Bouvante, au monastère du Val-Sainte-Marie, et qu'il y est mort quelques mois plus tard. On sait qu'il avait apporté un don, dont on n'a jamais retrouvé trace. Or, comme il l'avait confié au prieur de l'époque, qui lui-même est mort deux ou trois mois après le dauphin, on se demande un petit peu où ce trésor est passé, et c'est le thème de mon livre.
Ça entretient toujours une intrigue encore bien palpable maintenant sur « Bon sang, où est ce trésor ?»
Il y a toujours des gens qui le cherchent.
Mais en tout cas, c'est une belle amorce de roman pour ensuite vivre une aventure dans ces guerres qui ont été terribles.
Oui, ce sont des guerres dont les historiens en général n'aiment pas beaucoup parler, parce que elles ont été sanglantes, ce sont des histoires noires dont on n'aime pas toujours se rappeler, on n'aime pas les évoquer. Pourtant, je pense qu'il faut pouvoir rentrer dedans, et surtout quand ils cachent des faits assez héroïques. Je raconte là-dedans l'histoire du consul de Bouvante qui avait... était recherché le bétail que les protestants de Die lui avaient volé, qui a risqué sa vie pour pouvoir récupérer son bétail à l'attention de ses administrés. C'était quand même assez remarquable. C'est une histoire que j'ai beaucoup admirée. Ce monsieur devait être quelqu'un très courageux, avec un courage physique évident à l'époque. J'ai aimé raconter son histoire.
L'histoire, donc, c'est Antoine Vigne, hein, le héros de ce roman.
C'est le nom du consul authentique de l'époque, Antoine Vigne, dont on a quelques éléments. On a son extrait d'acte de naissance, on sait qu'il a été consul un certain nombre d'années, on sait qu'il avait eu... On connaît le nom de ses conseillers, et on sait ce qu'il a fait, plus ou moins, pendant sa vie. Et c'est un peu le héros de mon histoire, oui.
Donc, itinéraire dans ces faits historiques qui sont vérifiés, véridiques, hein, et cet aspect aussi de roman pour... donner une lecture assez attrayante.
Ben, disons qu'il faut trouver dans une série de faits historiques de ce type-là, qui si on les lit en la queue leu-leu, sont aussi intéressants que de lire le bottin téléphonique, c'est pas très amusant. Mais par contre, quand on arrive à y mettre les angoisses des gens de l'époque, les enjeux, les plaisirs qu'ils pouvaient avoir de vivre un certain nombre de choses à l'époque, ça devient très intéressant.
C'est donc ce premier ouvrage, Le secret du dauphin, qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, et à la suite duquel un deuxième ouvrage Dans un peu le même contexte est sorti, et puis on se situe du côté de Pont-en-Royans, qui est évoqué dans le premier.
Le premier ouvrage se passe au XVIe siècle, et j'ai voulu raconter ce qui s'était passé au XVIIe. Et puis je prépare actuellement un ouvrage sur la suite au XVIIIe siècle. Alors au XVIIe, il y a eu un événement marquant, extraordinaire, dont on ne parle plus beaucoup maintenant, qui est à la révocation de l'édit de Nantes, mais qui a fait que une bonne partie de la région étant de religion protestante, les gens ont dû fuir et en étant pourchassés, en étant souvent appréhendés, jetés en prison, les hommes comme les femmes. J'essayais de rejoindre la Suisse ou parfois la Prusse. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les archives que j'ai retrouvées parlent d'un marchand de Pont-en-Royans dont les enfants sont partis d'abord en Prusse et puis ensuite en Irlande pour combattre les troupes de Louis XIV et les troupes irlandaises à la bataille de la Boyne. Ils sont restés en Irlande, ces gens-là font des familles à Dublin, et ils ont émigré en Australie en 1840 à la suite de la famine de la pomme de terre irlandaise à l'époque. Et les descendants existent toujours en Australie, je les ai retrouvés, et c'est ce que je raconte dans la fin du livre.
Voilà des destins assez étonnants.
Oui, oui.
Le chemin de l'espoir.
Le chemin de l'espoir, oui.
Voilà, deux livres à trouver encore sur le Royan.
Le chemin de l'espoir est disponible en librairie. Le premier, Le trésor du dauphin, est en réédition pour l'instant.
Et un troisième en préparation.
Oui, sur les suites de cette famille-là au XVIIIe siècle, dans le cadre de la Révolution française.
Voilà, on peut aussi préciser que ça a nécessité beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches.
Ça fait beaucoup de recherches en archives et beaucoup de recherches sur les lieux où les choses se sont passées. Moi, je n'arrive pas à écrire si je ne vais pas à l'endroit où les choses se sont passées à un moment donné. Ça m'inspire beaucoup.
Et bien, quand sortira le prochain ouvrage ?
On va sortir à la fin de l'année.
C'est fin d'année 2026.
Alors. Oui, fin de l'année 2026, oui.
À suivre. Merci, Freddy.
Okay, merci, Patrice.
Freddy Bastin. Un soleil toujours bien ardent, mais les stands ne se démobilisent pas, à l'image de l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui, Lara aussi, qui fait part d'un certain éventail d'éditions, un certain nombre, hein, c'est assez riche. Bonjour Roland.
Oui, bonjour. Disons qu'on nous présente les livres et les fascicules qui ont été préparés par l'ensemble des adhérents. Alors, un exemple.
Il y a un livre qui fait référence, hein, celui-ci.
Qui fait référence, oui. Mémoire de Saint-Jean, mais qui avait été préparé par Roger Reynaud et Michel Collomb. Qu'est-ce que nous avons aussi ? Comble-Laval, qui se présente plutôt comme un fascicule, plutôt qu'un livre. Ça, c'est Marie-France Fort, qui a écrit un livre sur le barrage de Bouvante. C'est la centrale hydraulique dans le milieu rural, où elle a bien, disons, expliqué la période de construction, surtout du barrage.
De ce barrage qui a fêté ses 100 ans.
Ses 100 ans, il n'y a pas longtemps, l'année dernière.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça. Et puis, l'industrie du textile. Alors, en fin de compte, ces livres sont faits à la suite d'expositions. C'est-à-dire qu'on travaille sur des expositions, et ensuite, on essaye de concentrer l'exposition et d'en faire un livre. Voilà.
En fait, c'est une recherche, un thème qui vous prend.
Okay, voilà.
Une année, par exemple, et puis.
Exactement. Et le prochain, donc on peut en parler, qui est en préparation. Alors, ça sera Saint-Jean-en-Royans d'hier et d'aujourd'hui, mais évidemment. Mais c'est une présentation des immeubles remarquables de Saint-Jean. Ah. Voilà. Donc, on va parler de l'Hôtel-Dieu. De la mairie, de la fameuse maternité, les maisons bourgeoises aussi. Donc ça va être ce livre, théoriquement, sera prêt pour la fin de l'année 2026.
Avec bien sûr toujours de la recherche, des témoignages, des photos.
Des témoignages, voilà, exactement.
Des recherches aux archives.
Aux archives, oui, oui. Et bien ça fait suite à une exposition qui a eu lieu dernièrement, voilà.
Grandes heures du Royan avec aussi son industrie textile.
Hein. C'est ça aussi. Alors ça a été fait il y a quand même pas mal d'années. Hein. Donc On est en, le livre date de, je ne me rappelle plus, de 2017.
Vous êtes un certain nombre à vous passionner et à faire des recherches au sein de l'association.
Voilà, oui. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus passionnées que d'autres, il faut avouer.
Voilà, chacun a sa mesure.
Voilà, exactement. Voilà. Disons qu'il y a aussi une certaine fatigue, parce qu'il y a peu de renouvellement, disons, parmi les adhérents. Et bon, on commence comme toute association, on commence, si vous voulez, à un peu être atténué dans le temps.
Parce que les plus jeunes générations sont moins intéressées par le patrimoine,
qu'est-ce qu'il... Oui, et puis c'est flagrant. Hein.
Et bien, en tout cas, beaucoup d'ouvrages à l'actif de Royan-Dière et d'aujourd'hui qu'on peut retrouver.
La bibliothèque à nos livres. Oui, la bibliothèque à nos livres. Par contre, bien évidemment, ces livres en général sont vendus pendant, après, je dirais, édition, pendant, je dis au maximum un an chez les libraires de la région. Mais après, bon, on ne les trouve plus. Hein, voilà.
En tout cas, c'est une belle photo sur un instant T de vos recherches patrimoniales.
Voilà.
Ah oui, par une chaude journée à Rochechinard, eh bien, on se déplace de stand en stand découvrir des ouvrages, dont un qui a été publié assez récemment. On en a parlé hein, sur l'antenne de Radio Royan, n'est-ce pas, Louis-Paul Parma, oui. Bonjour.
C'est sur l'église Saint-Silouane du monastère de Saint-Antoine-le-Grand, à Combes-Laval, non loin de Saint-Laurent-en-Royan.
Voilà, il est sorti il y a quelque temps, on peut dire que ça a suscité un engouement ce livre.
Il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés. On en a fait éditer avec le monastère 500 exemplaires. Le monastère 250 et moi 250. Et j'ai dû dépasser les de vendre 150.
Alors, on précise d'ailleurs que c'est l'histoire, mais on peut dire aussi tout ce qui concerne le bâti de ces
c'est
édifices.
Le bâti et les fresques à l'intérieur de l'église, parce qu'à l'intérieur, il y a 600 mètres carrés de fresques qui ont été peintes par un peintre de fresques russe qui est venu dans la région après la chute du rideau de fer. Il est venu avec sa femme, il est tombé amoureux du coin. Et il a proposé de faire bénévolement les fresques, 600 mètres carrés de fresques, en 5 ans et en travaillant 6 mois par an. Et c'est superbe.
Et c'est un habitant de Rochechinard, donc,
oui. Qui est d'ailleurs voisin. Jean-Pierre Vercasson, qui l'a fait, qui était presque un cousin, puisqu'il vivait avec la cousine Germaine de ma femme, qui est là, c'est décédée, Dani Locatelli.
De nombreux clichés ont été pris au fil du temps pour...
Alors, il y avait un marchand de matériaux, M. Mattiolo, qui venait régulièrement, qui s'est pris d'amitié pour Jean-Pierre. Il venait toutes les semaines, tous les 15 jours, et chaque fois, il faisait des photos. Et j'ai visité plusieurs fois le monastère. Personne ne me parlait du bâtisseur, je crois que c'était les moines qui avaient construit l'église. Et un jour, chez Jean-Pierre, il nous sort toutes ces photos. Je lui ai dit, mais c'est un chef-d'œuvre ce que tu nous as fait là. Il faut en parler, il faut le faire revoir. J'ai tout récupéré, j'ai tout scanné. Et, vous savez, après, c'est boule de neige. Vous intéressez au bâtiment, après vous allez revisiter l'intérieur. J'ai fait des photos de tout l'intérieur et après j'ai d'abord fait deux diaporamas que j'ai présentés notamment à l'église de Rochechinard. Et puis boule de neige, j'ai fait le bouquin et on l'a édité.
Voilà, une aventure en photo qui retrace la construction du bâtiment étape par étape. Hein.
Et ouais. Ah oui, des fondations à la poste de la croix au sommet du dôme. Et toutes les fresques. Mais également, je parle un peu aussi de Saint-Jean-Damasène, qui est près de Saint-Jean. La petite chapelle qui n'est pas sanctifiée de Rochechinard. Et des moniales qui étaient à Combes-Laval, qui ont été transférées dans le Gard par le père Placide, près d'où j'habitais, le monastère de Solans. Alors je suis agnostique, hein. Donc, j'étais catholique à la naissance, je suis marié avec une protestante, j'étais médecin, donc à la sortie, je suis agnostique. Il y a peut-être quelque chose, mais je ne sais pas.
Ah, pour découvrir ce livre, il est en vente sur le Royan ?
Alors, actuellement, je l'ai mis en vente à la librairie Papeterie qui est à Saint-Jean, et j'en ai mis quelques-uns aussi à l'Arsolite. J'en ai mis aussi quelques-uns au musée de Rochechinard.
L'église Sainte-Silouane et le monastère de Saint-Antoine-le-Grand, construction fresque par Louis-Paul Parma. Merci beaucoup, Louis-Paul.
Non, merci.
Merci aux autrices auteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce parcours de rencontre à la Maison-Musée de Rochechinard dans le cadre de la saison d'été du musée à l'initiative de l'association Les Amis du Musée de Rochechinard. Cette journée spéciale rencontre a été organisée le 8 août 2026.